Je m'appelle Marion, je suis fille de vigneron en biodynamie
et diplômée en sociologie.
J'ai eu envie de questionner les biodynamistes sur la place de l'animal sur les fermes, et sur les fermes en biodynamie en particulier. Ce podcast présente un peu mon tour de ferme sur la question, et sur bien d'autres questions encore. Ce podcast questionne alors plus largement comment la biodynamie parvient à se mettre en place progressivement sur les fermes, dans le contexte actuel, et quelle place donner à l'animal aujourd'hui et à l'avenir.
On se retrouve en Lozère, dans la fromagerie de la ferme de la chèvre du Gévaudan, pour rencontrer Céline et Sébastien, en pleine préparation du marché pour le lendemain.
On est donc Céline et Sébastien, donc mon épouse et moi, sur à peu près 35 hectares de terre, avec en ce moment 92 chèvres en lait. Il y a à peu près 16 hectares qui sont pour le fourrage, 10 hectares, 11 hectares de prairies naturelles et 5 hectares de luzerne pure, et ensuite presque 7 hectares de céréales. Et tout le reste, donc, c'est entre du pâturage et du bois pâturé. Le lait de nos chèvres est transformé sur la ferme, donc il n'y a rien qui est vendu à l'extérieur, enfin au niveau du lait, quoi, tout est transformé. Et tout est vendu en direct. Alors, on vend à la ferme et on fait deux marchés. Il y a en gros 40-45% sur les marchés et voilà, 55% à la ferme. Donc on fait du lactique principalement, du cahier lactique, donc c'est ce que je suis en train de dénouer là. Donc nous on appelle ça des chevrotons. Après on a donc des boutons de culotte, c'est ceux-là que je dénouerai tout à l'heure, des crottins.
Ouais.
On a ici, il y a des aromatisés là, voilà, au cumin, au poivre, à la cendre, à l'ail des ours. On fait encore des grands cabris, des tomates, des tomes lactiques, des faisselles, des yaourts. Donc on a à peu près 18 sortes de fromages. Donc toutes ces terres, en fait, nous permettent d'avoir l'autonomie alimentaire pour les chèvres. On fait que de la luzerne en prairie artificielle. Parce que, en fait, on souhaite vraiment aller sur l'autonomie alimentaire. La luzerne, ça nous apporte des protéines pour les animaux. Les protéines qu'elles ne vont pas avoir, puisqu'on n'a pas de taux de soja ou toutes ces choses-là. Donc, nous, on travaille avec la luzerne. On alterne entre le foin et une prairie naturelle, qui est quand même leur préféré. Elles aiment beaucoup ça. Après, c'est sûr que si la luzerne est bien belle, elles sont contentes. Mais voilà, ça apporte donc les protéines. On fait, si on fait pas mal intervenir une entreprise de travaux agricoles pour les labours, le compostage du fumier, le montage du compost. Par contre, après, moi je sors le fumier des chèvres et eux ils le compostent, ils le passent sur les pendeurs pour faire un tas dans lequel moi je mets les préparations. Et après, c'est eux qui viennent à nouveau épandre le compost. Après, on fait faire les semis, on fait faire les moissons. On fait que le fourrage. Parce que les foins, moi je trouve que c'est quelque chose d'important, donc j'ai pas trop envie de le faire avec quelqu'un d'autre. Sont conduites en biodynamie depuis 2013, donc le compost et la bouse de corne et tout ça. En fait, dans un premier temps, uniquement sur les céréales, parce que j'avais pas de ni dynamiseur ni de cuvée, donc moi je faisais tout à la main. Donc voilà, à la pompe à eau et dynamisé à la main. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans sur entre 7 et 10 hectares par an. On n'avait pas les moyens d'acheter un dynamiseur à 5000 boules et puis un cuvée à 5000 boules non plus. Donc, entre temps, moi j'ai récupéré un vieux cuvée de voisin qui s'en servait plus. J'ai viré la cuve, j'ai appelé Codine et puis j'ai essayé de négocier pour le construire moi-même.
Ouais.
Il m'a dit écoute, je comprends, pas de problème, j'ai une cuve de 300 litres en inox que je peux te vendre d'occasion parce qu'elle a un pet, je peux pas la vendre neuve. Donc voilà, donc, il m'a vendu ça plus le kit pour la 500 et la 501. Puis, moi après j'ai monté sur le cuvée. Et après, j'ai acheté un tonneau en bois, un tonneau de 400 litres, que j'ai pas payé très cher. Et puis après, j'ai mis mon père sur le coup, et il y a un copain qui bricole un peu les moteurs, l'électricité, l'électronique, tout ça. Il m'a monté un truc qui fait changer de sens. Il a fabriqué le mécanisme. Fait que, tout compris, je m'en suis sorti pour à peu près 1800 balles. Donc j'étais très content, et Déméter encore plus que moi. À l'automne, je mets la 500 uniquement sur les céréales quand je les sème, soit le jour même, soit le lendemain. selon comme j'ai le temps, selon comment elle, la météo aussi. J'aime bien mettre la 500 quand la terre est un peu humide. Et rapidement derrière, je passerai du coup la 500. C'est bien d'avoir une semaine, 15 jours entre les deux. Mais après, c'est surtout sur les céréales, je vais essayer de le faire assez rapidement pour éviter de passer quand les céréales sont trop hautes. Après ça, c'est de la maniaquerie. Et après, voilà, j'ai le calendrier lunaire. Ça me sert d'agenda pour mon année, en fait. Ouais. Dedans, dans mes calendriers, enfin, après, si on a le temps, tout à l'heure, on regardera, toi, depuis 2014, on sait quand est-ce que j'ai passé les préparations, quand est-ce que j'ai fauché, quand est-ce que j'ai moissonné, que j'ai semé, que j'ai labouré, fait le compost. Tout ça, c'est tout noté dans mes calendriers.
Tu favorises quel jour ?
Alors après, pour les céréales, j'aime bien travailler donc les jours graines. J'ai vraiment eu de très bons résultats. Généralement, la levée se fait en 7-8 jours. Donc c'est vraiment super chouette, quoi. Je sème de l'orge et de l'épeautre, du grand épeautre. Donc le grand épeautre, je le sème aux environs du 15 octobre. Non, du 15 septembre, pardon. Parce qu'il faut que ça reste très longtemps en terre, le grand épeautre. Il faut pratiquement 11 mois pour le moissonner. Au printemps, donc je passe des préparations partout et je sème la luzerne sous l'épeautre. Là, je vais semer là, le 19, donc en jour fleur. Depuis que je fais en jour fleur, ça a toujours super bien marché. Ça marche vraiment bien. Ils ont l'avantage d'être après à l'abri de l'épeautre, donc ils sont protégés du soleil. Dès qu'il y a un peu d'humidité, ils profitent de l'humidité. Et en plus, la luzerne fait profiter de son azote à l'épeautre. Et après, donc, au printemps, le plus rapidement possible, je passe une 500. Il n'y a plus grand-chose que je fais manuellement, si ce n'est quand je fais mon compost quand même. Quand je mets la valériane, ça, je dynamise quand même à la main. Parce qu'au début, j'avais juste mon tonneau. Et du coup, j'ai fait quelques fois, j'ai brassé 300 litres à la main. Et c'est puissant.
C'est-à-dire ?
C'est puissant, ça fait les épaules.
C'est puissant, fatigant, et c'est aussi...
Et c'est puissant, c'est bon. Ça n'a rien à voir avec les quantités. Moi, quand je dynamisais à la main, je faisais 100 litres. Là, quand tu dynamises 500 litres, 300 litres, ouais. De fou. J'étais monté un tracteur, le chargeur tout en haut, j'avais accroché un morceau de bois pour...
Ouais.
Donc du coup, j'avais pas à soutenir, j'avais juste à faire le mouvement, le chaos, et puis briser le vortex. Et c'est... Moi, j'ai trouvé ça très bon. Une heure, donc on dynamise une heure, ouais, en changeant de sens quand le vortex est créé. T'attends quelques instants, et après, tu vas dans l'autre sens pour faire le chaos. C'est vrai que j'ai adoré, surtout le matin. Ouais, déjà, je suis quelqu'un du matin, donc je pense que c'est pour ça que ça me parle. Mais le matin, c'est magnifique. Quand t'es... 4h du matin, tu te lèves, dynamises tes 300 litres de flotte avec la silice. Et puis au fur et à mesure, t'as le jour qui se lève tout doucement, t'as les petits oiseaux qui commencent à chanter, t'as les couleurs qui sont... Autant le soir, tu trouves le temps long, enfin moi je trouve le temps long le soir. Alors, le matin, je pense que ça durerait 2 heures, ça me donnerait pas. Le matin, c'est une beauté, c'était bien. Enfin, moi, je disais que certaines années, on était obligé d'acheter un peu de céréales, de briquettes, parce qu'il en manque un peu. Et ben, on a beau acheter de l'orge bio, et ben, tu vois, entre l'orge ou l'épeautre, donc biodynamique, produit sur la ferme, et de l'orge bio d'ailleurs, ben, les chèvres, elles ont un temps d'adaptation. C'est peut-être pas évident à comprendre, mais enfin,
ou à croire. C'est-à-dire qu'on aura plus d'herbes ou des choses comme ça?
Non, c'est juste qu'elles ne veulent pas le manger au début.
D'accord, ouais.
Tant l'aplatit comme le reste,
ouais.
Elles sentent que c'est pas le même que pas celui qui est produit sur la ferme. Moi, au début, ça m'a fait vraiment drôle, quoi. Tu leur mets dans la gamelle, elles sont là, elles la mangent, mais bon, il faut une petite semaine pour qu'elles s'adaptent à ça. Et après, tu moissonnes, tu fais rentrer tes céréales, tu les aplatis, tu leur donnes, et là, problème, là, elles te mangent ça,
ouais.
Sans se poser de questions, quoi. Ça y est, elles vont retrouver. Des choses qu'on a toujours fait, parce que moi la biodynamie ça fait 30 ans que j'en rêve et ça fait presque 10 ans que j'en fais, donc je suis content. J'ai toujours fait attention à toutes ces choses-là, et on s'est rendu compte quand même que la biodynamie apporte vraiment quelque chose à la qualité de ce que mangent les chèvres. Parce ouais. Que par exemple, au début on avait quoi, 300-350 boules de foin par an, et les chèvres elles mangeaient tout. Et maintenant on a 250 boules de foin par an maximum, et de temps en temps il en reste. Tu vois, la qualité du fourrage, la quantité a diminué d'une centaine de boules, mais la qualité a dû monter, t'as quasiment pas de refus, et puis les chèvres elles produisent du lait avec le foin, qu'elles ont sur la ferme. On n'achète rien, tu vois, il n'y a pas de de concentré, je sais pas, les tiers, enfin, de machin comme ça. C'est uniquement avec les céréales de la ferme, le foin et l'herbe de la ferme qu'on fait le lait qu'on a, quoi. On n'a pas des chèvres qui sont des grosses productrices, on est...
C'est quoi comme race?
C'est des alpines chamoisées, mais on est à peu près à 600, entre 600 et 700 litres par chèvre par an. Mais par contre, on a des taux, c'est là-dessus qu'on a travaillé, et on a des taux qui sont vraiment superbes, quoi. On est content d'être arrivé à moins de lait pour finalement quasiment plus de fromage. Quand on a repris le troupeau, les chèvres, bon, c'était pas du tout en bio. Les chèvres étaient à 1300, 1200, 1000. Enfin, c'est vraiment des grosses, grosses
ouais. Productions. Donc, comment t'es arrivé à avoir des chèvres
On a sélectionné, gardé des chèvres par rapport au taux. Parce qu'on est au contrôle laitier. Le lait des chèvres est analysé une fois par mois. Tu sais les litrages par chèvre et tu sais les taux des chèvres. On a gardé les chèvres qui avaient les meilleurs taux, qui faisaient un peu de lait quand même. Après, on gardait des boucs de chèvres, parce qu'on travaillait avec les boucs de la ferme, on n'achète pas de boucs à l'extérieur.
Ouais.
Donc on a gardé des boucs au début, on faisait du lait, on ne s'occupait pas trop des taux sur les boucs, on s'occupait surtout du lait, pour pouvoir quand même garder un peu de lait. Et du coup, on faisait faire des chevrettes à des chèvres qui avaient des taux, et qui avaient été prises par un bouc qui avait quand même du lait. Parce que généralement, les chèvres, c'est là ça devient un petit peu compliqué. Ouais. Qui font beaucoup de lait, ont des taux plutôt bas. Celles qui n'ont pas beaucoup de lait, généralement des taux de fou. Donc nos chèvres qui avaient vraiment des forts taux, on leur a mis des boucs qui avaient un peu de lait pour garder, pas baisser trop notre niveau de lait. Nous on voulait pas rester à 1200 litres, mais on voulait pas non plus descendre à 400 litres parce qu'on voulait faire du fromage. Et on a réussi petit à petit, voilà, ça fait 15 ans qu'on y travaille. Et là maintenant on a des chèvres qui sont vraiment bien à ce niveau-là au niveau des taux et on essaye de travailler, donc pour garder à peu près toujours la même quantité de lait et en privilégiant au maximum les taux butyriques et protéiques pour la matière grasse pour avoir des bons rendements en fromage.
Et ça, c'est parce que vous faites du fromage.
Après, on serait uniquement laitier. Pas que les taux, c'est pas tout en fou, mais bon, on te paye sur le volume. Quelqu'un qui fait du lait, vu qu'il ait des chèvres, fasse beaucoup de lait plutôt que des chèvres comme les nôtres. Parce qu'après, s'il veut s'en sortir financièrement, les chèvres comme les nôtres, s'il vend que le lait, qu'il en ait vraiment beaucoup.
Donc c'était un choix de votre part de faire du fromage, de tout transformer.
Voilà, de tout transformer. Après, on n'est pas en vente directe depuis le début, on est en vente directe depuis 2016. C'était notre objectif, on ne pensait pas l'atteindre aussi vite, mais c'est aussi le panel de fromage. Quoi. Nous, on voulait faire de la vente directe, on savait que si tu veux faire de la vente directe, il faut que les clients aient du choix. Là, il y en a qui ne prennent que des petits frais comme ça, il y en a qui prennent que des tomates, il y en a qui prennent que des crottins, on en a qui prennent que des tomes comme ça, ils prennent rien d'autre que de la tome comme ça, il y en a qui prennent de la tome roulée comme ça, rien d'autre. Plus tu as du choix, plus tu vas attirer du monde quelque part. C'est un peu commercial, mais... Ce que je pense que la biodynamie a apporté, c'est au niveau du bien-être sanitaire. Depuis qu'on est ici, on a tout arrêté les vaccins et tout ça. On a des chèvres qui ont une immunité vraiment... vraiment impressionnante. Alors, est-ce que la biodynamie y a fait? Je pense. Après, on a énormément travaillé l'immunité aussi, quand même, avec des plantes. On fait, quand on doit soigner, on fait soit l'homéopathie, soit aux huiles essentielles. En fait, on fait comme pour nous. Et vu qu'on n'est pas des fous furieux du médicament, c'est paisible. Quand tu donnes un remède, ça va à une vitesse phénoménale. Tu vois tout de suite
l'effet.
Alors qu'avant, on ne le voyait pas autant. Donc peut-être que par là, la biodynamie a... Parce que quelque part, cette gousse de corne, cette silice qu'on met, ces préparations qu'on met, c'est un des remèdes, quoi, quelque part. Enfin,
par l'alimentation, après.
Ces remèdes qu'on met dans la terre ou qu'on donne aux plantes, après, les chèvres le mangent, quoi.
Ouais.
Bon, après, c'est sûr que... passer pour des farfelus quand on dit ça, parce que c'est, tu mets 150 grammes de gousse de corne à l'hectare, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc c'est sûr qu'après, quand sur ce pré, tu fais 15 boules de foin, imagine que les 150 grammes divisé par 15 boules de foin, au bout du compte, ce que les chèvres mangent, c'est...
C'est infime, ouais.
Mais je pense malgré tout que ça y fait. Je pense que le fait de nourrir les plantes et la terre par ces remèdes, et bien quelque part, tu ne médicalises pas la chèvre, mais tu travailles à son immunité. Moi, c'est ça que je dirais. Un animal qui a les yeux brillants, le poil, un joli poil, quand elle te regarde, tu vois qu'elle est heureuse de vivre. Enfin, peut-être que je me fais des idées, mais j'ai l'impression qu'elles sont heureuses au week-end. Bon, là, pas trop, parce qu'elles sont dedans, elles aimeraient mieux être dedans. dehors. Ouais. Mais quand tu les sors, elles courent dehors, elles sont bien, quoi. Elles sont résistantes, elles sont... Nous, on ne regarde même pas l'âge qu'elles ont quand on garde nos chèvres. Enfin, voilà, il y en a, à 5 ans, bim, ça part, c'est remplacé, machin. Enfin, dans le conventionnel, oui, oui. Ça tourne à fond. Nous, notre plus vieille biquette, donc elle a 11 ans. Tu regarderas, si tu veux, le troupeau tout à l'heure, ouais. Si tu arrives à la trouver sans regarder sa boucle. Enfin, on a un troupeau qui n'est pas forcément jeune, quoi. Il y a de la jeunesse, mais il y a aussi des chèvres qui ont de la bouteille, quoi. En fait, nous, quand on regarde notre troupeau, savoir ce qu'on doit faire de certaines chèvres, c'est pas l'année ni la naissance qu'on regarde, c'est déjà la chèvre comme elle est dans son aspect, si elle va être capable d'aller dehors, parce que nous, elles sortent 7, 8, 8 mois de l'année, quoi, à peu près. Et elles peuvent aller un peu loin, elles vont dans des endroits où il y a des genêts, des ronces. Enfin, c'est pas de la promenade de santé, ça monte, ça descend. Donc il faut qu'elles puissent marcher, il faut qu'elles puissent avoir un peu de lait quand même, du lait de bonne qualité, soit maternelle, puisqu'on a les chevaux sous les nerfs. C'est toutes ces choses-là qui font qu'on va sélectionner nos animaux par rapport à ces choses-là. C'est pas, l'âge ne vient pas rentrer là-dedans. Notre façon d'élever les piquettes, bon, c'est un peu... original entre guillemets, disons que si on commence par le début, nous on fait ce qu'on appelle la montée en main. On a 3 ou 4 boucles, ça dépend des années. On connaît toute la généalogie de nos chèvres, on connaît le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les sœurs, les machins, enfin tout. Au moment de la lutte, on a toutes nos chèvres là et on a nos boucles ici. Céline fait une sélection entre guillemets de telle chèvre avec telle boucle. Et donc là, on a énormément d'interventions parce que justement, quand la chèvre est en chaleur, on l'emmène voir son pote. Donc on l'emmène, ils font ce qu'ils ont à faire, on l'enlève. C'est beaucoup de manutention à ce moment-là. Alors est-ce que ça les perturbe? Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu les sens perturbés à cette place?
On a bien des chèvres qu'on va mettre avec des boucles qui ne vont pas le pouvoir. Et
oui.
Donc il y a quand même quelque chose qui me perturbe parce qu'on a des chèvres qu'on aimerait bien mettre avec ce boucle-là. Et on les met dedans, elles n'en veulent pas. Par contre, on les met avec l'autre, il n'y a pas de problème.
Vu qu'on connaît toute la généalogie, en fait, ça veut dire que ce bouc, on peut le garder 2, 3, 4, 5 ans. On s'en fiche qu'il ait des filles, qu'il ait des sœurs, qu'il ait sa mère, qu'il ait machin.
C'est nous qui décidons.
Alors que si tu lâches tous les boucs dans le troupeau, là, tu vas avoir des problèmes de consanguinité, tu pourras rien régler, quoi. Et en faisant
après,
comme ça...
La lutte reste naturelle en soi, parce qu'on les met dans le box et puis après, ils
épouillent.
C'est nous qui choisissons la chèvre, c'est pas elles qui choisissent son concubin,
quoi. C'est pas elles qui le choisissent.
On fait un peu agence matrimoniale. C'est pas direct, c'est le seul truc qui est un peu négatif dans notre système d'élevage, parce qu'on a trop d'interventions, je pense. Là, nous, en tant qu'humains, il y a trop d'interventions.
Par rapport à
l'animal, pour le laisser dans ses instincts naturels. Et après, c'est la seule solution qu'on ait trouvée pour éviter, pour qu'on puisse rester avec notre troupeau.
Et aussi, on fait ça que pendant un cycle de chèvres.
Voilà, pendant 3 semaines.
Pendant 3 semaines, pendant les 21 oui. jours. Après...
Donc, quand les chevrettes de ces 3 semaines vont naître, on saura exactement la généalogie. Après, une fois que ces 3 semaines sont passées, que le cycle est passé, après on lâche les boucles dans le troupeau.
Au niveau de l'intervention humaine, c'est vraiment ce moment-là où on est interventionniste.
C'est choisi, c'est parce que vous voulez, c'est parce que
nous, on ne veut pas acheter. Si on achetait des boucs à l'extérieur...
Il faudrait acheter tous les ans ou tous les 2 ans. Tous les 2 ans, il faudrait acheter un bouc.
Si on s'en foutait de la généalogie de nos animaux, on achèterait 3-4 boucs chaque année, on balancerait ça au milieu et puis on les laisserait se débrouiller. Mais quelque part, c'est un peu du gâchis. Je veux dire, on a des chèvres qui sont bonnes, on a des boucs qui sont bons.
Les gens qui travaillent en chèvre à côté de nous, ils nous trouvent fous à faire ça parce qu'eux, ils ne s'embêtent pas. Ils lâchent leur bouc et ils changent de bouc tous les ans, tous les 2 ans. Et puis voilà, c'est... Et bon, après la mise barre, on ne s'en occupe pas, elles ne mettent pas, elles s'occupent de leurs chevaux.
On va désinfecter
mâles, femelles.
On désinfecte, on garde ces mâles ou femelles.
On les note.
Après, elles font leur vie, elles sont avec leur bébé. Jusqu'à ce qu'on leur enlève, soit pour partir à la boucherie, soit les femelles pour les sevrer.
Les mâles, ils partent à l'abattoir?
Les mâles partent, oui, la plupart.
Enfin, on garde 2 à 3 par
Il y aurait la possibilité de diminuer le troupeau, de pourrait vivre avec 50 chèvres. Mais le problème qui se passe, c'est que la structure, là, la structure comme elle est faite, avec 100 biquettes, on est bien, pour travailler, on est bien, on a la clientèle pour ça.
Quelque part, ça serait
presque se mettre une balle dans le pied, voilà. Diminuer le troupeau, on serait super bien. Mais par contre, après, la revente de la structure derrière... Parce
que... Mais même la clientèle, on aura un problème. On refuse du monde si on baisse.
Ah, il va falloir qu'on arrête les marchés. Voilà.
Il va falloir qu'on arrête les marchés, voilà. Donc non, je pense que moi, baisser le troupeau, j'envisage pas. Mais par contre, pourquoi pas vendre tout et refaire ou repartir sur autre chose ailleurs, nous, ailleurs, petit, sans emprunt, sans rien du tout, faire vraiment un truc tranquille.
Un truc tranquille comme on avait...
Mais faire un truc tranquille ici, je me dis c'est dommage. Parce qu'il y a une structure qui est faite pour un fonctionnement tel qu'il est maintenant. Ce serait dommage de casser ce cycle par rapport à cet environnement. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui est fait comme ça avec ce nombre d'animaux, la surface qu'on a. Là, ça va bien, ça tourne bien, on n'a pas de problème. Tout va bien, la clientèle ça va avec.
Ouais. Si on a moins de chèvres, on va avoir trop de terre. Mettons qu'on passe à ça.
Oui, mais ça va tout perturber en fait.
On va manquer de chèvres par rapport à nos terres. Donc, on va.
Qu'est-ce qu'on va faire
hein. Et comment vous êtes arrivé du coup à cet équilibre? Comment on trouve justement l'équilibre?
Ah, bah c'est simple. C'est simple. Il faut écouter. Il faut écouter. C'est-à-dire que l'équilibre il se fait vraiment. Si on reste en naturel, je pense que l'équilibre il se fait tout seul. C'est-à-dire que les chèvres, à un moment, on a voulu augmenter un peu plus et tout. Ça n'a pas marché. Il y a eu des problèmes, des maladies, des machins. Pof. On a essayé. C'est marrant, hein. Des fois, on s'est dit, bon là, on a eu un problème une année, on a manqué de sous. On s'est dit, bon, l'année prochaine, il faut qu'on garde un peu plus de chèvres et tout. Ça ne marche pas. C'est vraiment. L'équilibre se fait entre 86 et 90 chèvres. Il reste et tous les ans, il n'y a rien à faire. Il faut pas pousser, il faut écouter ce que ça veut dire tout ça. Pourquoi il y a des animaux qui meurent et qu'on redescende à ce chiffre entre 82 à 90,
Il y a une fourchette de 10-12 animaux, 10-15 animaux. On ne peut pas aller, là on en a 93, je pense qu'on n'arrivera pas à aller plus loin. On avait essayé, ça n'a jamais marché. Par contre, c'est pareil, on n'arrive pas à aller forcément en dessous. Si on voulait, après on peut toujours, il suffirait d'en vendre.
Oui, mais voilà, mais après vendre pour des animaux, nous, ils sont bien là, moi je ne vais pas les vendre.
Parce que des années, on a 90 piquettes qui sont à la mise bas, on se dit, si on a des problèmes de mise bas et tout, on va tomber à 75 piquettes. Ben non,
ça s'équilibre.
Des fois, on arrive même à être à 87, 88, 86.
Non, puis même tout, le foin des années, on est là, on veut pas acheter à l'extérieur. Donc on fait l'alimentation pour nos chèvres, tout est calculé par rapport à ce qu'on a. Comme sachant qu'on va avoir moins de lait parce qu'on aura moins de foin, c'est pas grave, on fait comme ça. Et il y a des années où on a très peu de foin et on se dit, ça marche bien, il y a le temps qui vaut bien, qui va bien, du coup on sort les chèvres plus tôt, du coup elles mangent moins de foin, enfin tout est équilibré.
Et l'équilibre il va dans les deux sens, parce que là tu vois, moi à un moment là, je disais, putain du foin, on va en avoir de reste, il va y avoir un petit reste de foin, c'est super et tout. Ben il y a eu du froid, il y a eu de la pluie, ben du foin, on va en avoir assez. Hein. Mais ça va, je pense qu'il va nous rester 2, 3, peut-être 4 boules. Donc je pense qu'on est arrivé, comme tu dis, à un équilibre animal, surface et humain.
Même niveau clientèle, on vend tout, on refuse du monde, mais bon, quelque part, bah, tant pis. Enfin, pareil, là, on pourra en avoir plus, mais bon, non, ça nous intéresse pas.
Vous n'avez pas de projet d'évolution
Là, par contre, on est à un stade, on a 50 ans tous les deux, on est à un stade où on se dit, bon, si on doit faire quelque chose, c'est maintenant. C'est pour ça que
c'est-à-dire
si on doit évoluer dans notre vie par rapport à notre activité professionnelle et personnelle, n'envisage pas rester plan-plan comme ça, continuer notre système, parce que c'est pas notre but à tous les deux, on recherche autre chose.
Oui, on recherche.
Donc
et
c'est là
parce que vous êtes arrivé à cet équilibre et du coup, il n'y a plus de challenge.
Ouais, c'est pas un challenge, je pense que Sébastien, il est en biodynamie, ça y est, je pense que toi, t'es moins comme moi parce que t'as envie de continuer vraiment
ce
que
tu veux.
Bon, moi j'ai pas envie de rester dans un quotidien. C'est maintenant financièrement ça va. Nous l'argent ça nous intéresse pas plus que ça en fait. Nous ce qu'on veut c'est vivre de ce qu'on veut. Quand on n'a pas d'argent on fait avec, quand on a de l'argent on fait avec. Mais on cherche pas en fait.
Comme on a été longtemps
à
Mais financièrement, on avait les enfants et tout, les hivers étaient très longs et pénibles. Donc on a fait avec ce qu'on avait. Donc en fait, je pense que du coup, on a beaucoup moins d'exigences.
Bah, c'est maintenant,
on est
un peu trop
facile, on voit. On a l'argent, on est content, mais on n'arrive plus à le dépenser. Parce que,
c'est le confort en fait, c'est cette histoire de confort. On rentre dans un confort et non quoi, j'ai pas envie de rentrer dans un confort, j'ai envie que ma vie soit constructive et qu'on continue à...
C'est pas gênant, faut pas que ça soit de la routine.
Oui, bah c'est ça, c'est le risque du confort en fait. D'arriver, on a une belle maison, ça va, on a ce qu'il faut, les enfants sont tous casés, c'est bien. Donc on veut faire quelque chose d'autre de notre vie et c'est pour ça qu'on te parle de cette histoire de pourquoi pas tout revendre, redémarrer sur autre chose ailleurs, d'une autre façon, plus petit, plus du coup avec des petites... Moi ce serait plus une petite ferme avec les terres et puis...
Quand même rester paysan.
Bah,
avec des animaux ou...
Ah, moi, obligé. Hein.
Moi, c'est... J'ai peur.
Oui, de toute façon, oui. Après, on avait pensé à d'autres choses aussi. On a la place, on a du terrain, peut-être on envisagerait peut-être de construire un bâtiment en bois comme notre maison, pour accueillir des gens.
On va accueillir pour faire des formations.
Accueillir pour... comme une histoire de transmission, tu vois. On est arrivé ici, ça n'a pas été rose. On a réussi à faire quelque chose qu'on estime bien. Enfin, on est... Autant de nous, je pense, c'est pas prétentieux de le dire, mais on est content de... On est content de ce qu'on a fait ces 15 années qui sont passées. On est arrivé à quelque chose de viable, même sans parler de viable, d'intéressant, enfin de chouette.
Tout en restant dans des convictions
Qui
est autre que... Voilà, donc c'est aussi important parce que les banquiers ne voulaient pas nous suivre quand on a acheté. Les comptables, ils étaient là à nous dire ça ne marchera pas. Enfin, presque tout le monde était... Et maintenant, ils sont tous à dire bravo, quoi. C'est vraiment un beau truc que vous avez fait.
Je me dis, quand j'ai vu l'empreinte que vous mettiez sur le dos, les années que vous avez empruntées et les galères que vous avez eues, et où vous êtes arrivé au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que quand tu entends ces discours-là de comptables, donc de gens qui sont la tête dans les chiffres,
Il y a la comptable, il y a la chambre d'agriculture qui sont sans arrêt quand même intéressés par notre structure, qui nous demandent de faire partie des enquêtes et tout, tu vois, de rentrer dans des... Quelque part, c'est intéressant parce que notre façon, on ne suit pas du tout le système.
On est complètement...
On est hors un peu circuit et quelque part...
Pourtant, le système vous dit merci, quoi, limite.
On fonctionne. Et on se dit, regarde, l'autre jour, tu as eu un appel de...
Oui.
D'un autre agriculteur qui disait c'est quand que tu sèmes toi par rapport à la lune et tout parce que c'est des petits trucs où tu te dis
c'est des petits trucs quoi. C'est pas grand chose mais tout doucement quoi, ça, une petite graine là. Même si t'as pas la grosse structure agricole avec les vaches et tout le machin, le potager et tout bidule comme Rudolf nous a expliqué avec toutes ces quantités d'animaux différents et tout machin, et ben finalement ça veut dire que vraiment la biodynamie fonctionne quoi, en fait, parce que même si tu la mets à un endroit où il n'y a pas d'animaux, ça marche. Steiner, il avait raison quand il parlait de sa trousse de corne pour les racines, de la silice pour la lumière, pour la photosynthèse, pour Maria Thun, pour son compost de boue, ce qui détériore la matière organique et tout ça. C'est toutes des choses qui fonctionnent. Alors après, je pense que malgré tout, il faut quand même le faire en conscience. Parce que tous ces gens dont je te parle, avec qui j'ai discuté, c'est tous des gens qui étaient convaincus déjà, convaincus par la biodynamie, ça c'est sûr, mais qui avaient un ressenti. Donc c'est pour ça que si ce lieu, il n'a pas forcément toute la structure qu'il faut, mais que la personne le fait en conscience et avec de la silice et de la 500 qui sont de bonne qualité, qui travaillent convenablement, travaillent en conscience. Voilà. Tu sais que ce que tu fais, ça apporte plus que ça enlève. Je pense que c'est important, surtout par les temps qui courent, avec la plupart des gens qui n'en ont plus rien à foutre de rien, quoi, qui se préoccupent plus de rien.
Il cause beaucoup, il faut arrêter. Quand il est parti, il leur dit à demain les biquettes en partant. Tous les soirs,
tous les matins, je leur dis bonjour et au revoir.
Voilà. Après, moi, il y a des animaux, elles le savent, mais que je n'aime pas. Et voilà, il y a des animaux, il y en a que ça passe pas, elles le savent, et puis elles le font bien comprendre aussi.
Bon, vous arrivez à, enfin, vous voyez les affinités au sein du troupeau, des celles qui sont peut-être plus dominantes que d'autres.
Ah oui.
Et
ah
comment
oui.
vous travaillez avec ça?
Au niveau hiérarchie, en fait, il y a une forte hiérarchie, très très forte hiérarchie. Il y a des périodes où il y a des moments de lutte pour que justement elles essayent de gagner une place en hiérarchie ou baisser et tout. Donc bon, nous, moi, je pars du principe le moins d'intervention possible au niveau de l'humain vis-à-vis de ça. Ça, c'est on les laisse se gérer avec les risques que ça comporte, blessure ou pas blessure, ou on a déjà eu des chefs qui se sont fait éventrer, il y a le moins d'intervention possible. Et bah oui, du coup, on joue un peu avec ça, parce que par exemple, les meneuses de troupeau, c'est hyper intéressant. Donc. Après, on en a aussi qui sont des forts tempéraments. Moi, il y en a une qui a fort tempérament. Je sais que si elle, on la braque, ça braquera tout le troupeau. Quoi.
C'est marrant, parce que c'est pas forcément une meneuse.
Non, c'est pas forcément une meneuse, mais.
Mais il suffit qu'elle, elle soit indisposée. Parce que,
ça bloque tout le monde.
Elle, elle se braque et du coup,
terminé.
Tu vas bien dans tout le reste du troupeau. Et c'est un truc de fou.
Est-ce que vous avez dû vous séparer de certaines parce que le courant passait pas ni avec l'un ni avec l'autre et du coup...
Après ici, il y a des chèvres que je suis contente quand elles partent.
Après, moi, voilà, j'ai les choses que j'ai. Après, je me rends compte en prenant de l'âge que des fois, je suis un peu bourru de décoffrage. Des fois, pour certaines choses, tu vois, par exemple, nous, on a des toilettes sèches à la maison. Bon, c'est mon idée, ça n'a rien à voir avec la biodynamie, mais pour moi, c'est important. C'est un truc qui peut paraître complètement dérisoire, mais c'est super important. L'eau qui tombe du ciel, plutôt qu'elle serve à rien, enfin, ne sert pas à rien, mais celle qui tombe sur le toit de ta maison, elle sert à rien. Autant que tu la récupères et que tu économises de l'eau potable pour boire, et puis qu'avec cette eau-là, eh bien, tu fais tout le reste. Nous, on se lave, on fait lave le linge, la vaisselle, on fait tout avec l'eau. On la boit pas, c'est tout. Autrement, et
beaucoup ici.
J'ai juste un petit regret, c'est que la cuve est trop petite. On a mis 3000, on aurait dû mettre 5000. Parce que des fois en été, c'est. Mais en même temps, c'est recommandé qu'elle déborde au moins 3 fois par an.
Je pense pas avoir la cuve.
Donc 3000, c'est bien parce qu'elle déborde.
Aussi, il y a des kits.
En fait, où je voulais en venir, c'est que, en gros, je suis content de ne plus faire caca dans l'eau potable.
Voilà,
en fait. Je trouve
que
c'est une aberration de faire ses excréments dans de l'eau qu'on peut boire. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Je trouve que celui qui a pondu ça un jour est complètement débile. Traite l'eau, tu la rends potable, tu chies dedans, hop, ça repart, tu la retraites. Alors que l'eau de pluie, tout le monde pourrait avoir une cuve, ça coûte 3000 balles. Tout le monde pourrait avoir ça, et après, si vraiment il chie dans l'eau, il chie dans l'eau, mais au moins elle n'est pas potable. Non, mais c'est des choses qui me font halluciner. T'as des pays, des bonnes femmes, elles font 10-15 blocs pour aller chercher de l'eau sur la tête. Il y a un récipient qui te demande comment ça tient sur la tête. Nous, on l'a au robinet.
Ce podcast vous a été proposé par Biodynamie Recherche. J'espère que ce contenu et cette alternance entre éleveurs et vignerons vous amène à mieux comprendre la biodynamie et comment elle se pratique, comment elle se ressent, quelle que soit la production à laquelle on s'intéresse. On est dans des métiers où on travaille avec le vivant et où on n'est pas seulement confronté à des questions économiques ou de rentabilité, mais aussi à des questions sociales et environnementales qui amènent à agir autrement, mais aussi à penser et à communiquer autrement. Merci à Sébastien et Céline. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces témoignages dans des dossiers écrits. Ils sont répertoriés par grands thèmes qui sont la place de l'animal dans l'organisme agricole, accompagner l'animal tout au long de sa vie, et animal, éleveur et société.